CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Madame, monsieur, bonjour. Rémi Thoreau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Il nous revient avec un nouvel ouvrage. Notre auteur préféré, François-Henri Soulier, est de retour dans nos studios. Que la fête s'achève. C'est le titre de son roman qui vient de paraître chez Michel Lafon. Lorsqu'il me l'a apporté ou me l'a fait livrer, il m'a dit avec son humour légendaire, tiens, ça pourra toujours caler ton lit. Effectivement, ça doit bien faire un petit 4 centimètres. Mais c'est écrit assez gros tout de même,
je trouve. Je crois que c'est, les gens aiment bien les écritures grosses. Puis il ne faut pas oublier que je suis un auteur vieillesse. Donc mon lectorat a un âge certain et parfois un début de DMLA, donc il vaut mieux que ça soit gros.
Bonjour François-Henri Soulier.
Bonjour.
Merci d'être là pour nous présenter donc ce nouvel ouvrage paru aux éditions Michel Lafon, nouvel éditeur aussi.
Oui, nouvelle éditrice surtout, en la personne de Elsa Lafon, la directrice de la boutique, qui est devenue une amie. Ça fait 3-4 ans que nous nous connaissons et j'ai fini par céder à ses insistances charmantes et très amicales et je lui ai dit « bon ben, je vais te le faire ce livre que tu me réclames ». Je lui ai donné 3 phrases sur un coin de trottoir où on se rencontrait. Elle m'a dit « ça me va ». Et c'est parti.
Et alors, on a changé d'univers parce que vous nous aviez habitués à, on va dire, des décors plutôt moyenâgeux.
Voire antiques
dans les précédents ouvrages. Et là, on est à Paris, on est en 1870, pendant le siège de Paris, pendant la guerre contre la Prusse.
Oui, moment historique qu'on a pas mal oublié. Même ici à Montauban, nous avons pourtant ce très beau monument aux morts de 70 fait par Bourdelle, en haut du Pont Vieux. La plupart des gens passent devant sans se poser la question de savoir qui, quoi, qu'est-ce et pourquoi. En fait, ça a été un moment tragique, c'est la fin du Second Empire. Par l'impéritie et la sottise d'un état-major absolument stupide, on a perdu la bataille contre la Prusse, que Napoléon III a engagé de façon tout à fait inconséquente. Il s'est retrouvé donc à Sedan, prisonnier des Prussiens, et la France aux mains de l'envahisseur. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on oublie aussi que Paris, à l'époque, était fortifié. Il y avait une enceinte, l'enceinte de Thiers, de remparts, de fortifications, de forts aussi, qui protégeaient la ville, et qui aurait pu être utile si le gouvernement provisoire de la future République avait pris vraiment les choses en main. Mais là aussi, une espèce de mollesse, d'hésitation, de valse-hésitation, on peut dire, puisqu'on est en pleine période de la valse, a porté préjudice à toute tentative militaire et on a été battu à plate couture.
Et notamment parce qu'il y a eu aussi ce siège de Paris qui a amené les Parisiens à la famine.
Ah oui, qui a duré plusieurs mois et puis ça, qui s'est doublé d'une météorologie absolument pourrie. Il a fait jusqu'à moins 20.
Ouais.
Plus rien à manger, plus de communication, plus de possibilités de ravitaillement pour la ville. Et une température très en dessous de zéro, transformant Paris en une espèce de pôle nord, invivable pour les pauvres, bien entendu, qui mourraient en plus de scorbut, de fièvre et de faim.
Alors voilà le décor, hein. En plus ça se passe le 31 décembre, il neige évidemment, et on va dire qu'il y a 3 personnages principaux. Le premier avec qui on fait de suite connaissance, c'est Konrad Götz, qui est un soldat prussien qui va déserter.
Oui, alors l'idée c'était ça, c'était il stagne depuis quelques mois devant les murs de Paris, sans pouvoir vraiment y entrer, sans pouvoir du tout y entrer d'ailleurs, malgré leurs efforts. Ça va être résolu au mois de janvier assez facilement par les nouveaux canons livrés par Krupp. Mais pour le moment, ce garçon qui accompagne un de ses copains, parce qu'il est, sa mère est française, il a dit à son ami, écoute, ça sera mieux, je sois avec toi, parce que moi je parle français, toi ils te comprendront pas, et bon, ça sera pas commode. Donc il l'accompagne, son copain se fait tuer devant lui. Et il se retrouve tout seul, sans aucune raison de faire cette guerre, dont il ne partage aucun des projets. Sauf que il est étudiant aux Beaux-Arts, il a rencontré l'année précédente à Munich le peintre qui a été pour lui une espèce de coup de foudre pictural.
Gustave Courbet.
Voilà. Qu'il va essayer de rejoindre et il va donc déserter et escalader les fortifications pour entrer dans Paris en quête de Courbet.
Il va croiser, parallèlement en fait, il y a l'histoire d'Alma Dorkis, qui est une courtisane qui chante dans des pièces d'Offenbach, qui a fait sa fortune dans le lit des fortunés, on va
bien
dire.
Sûr. Oui, elle fait partie de ce qu'on appelait à l'époque les grandes horizontales. Ça définit un peu les personnages. C'était pour la plupart de celles qui ont vraiment réussi, les lionnes du boulevard aussi, autre nom qu'on leur donnait. C'était des femmes très brillantes qui avaient décidé de ne pas se soumettre au diktat masculin du mariage, d'être des femmes libres, mais cette liberté, elles la payaient au prix de leur faveur qu'elles accordaient à des gens extrêmement riches, très proches du pouvoir, parfois famille impériale ou royale, prince, etc., banquiers. Et certaines d'entre elles ont établi des fortunes absolument colossales.
Et alors elles se baladent dans une berline, à chevaux, évidemment, avec un petit chihuahua ou quelque chose comme ça, un petit chien qui a du bleu de méthylène, donc qui est tout bleu.
Oui, c'est un chien bleu. Alors elle dit que c'est pour s'accorder à sa robe, en fait c'est beaucoup plus astucieux. Elle l'a peint en bleu en disant qu'il était malade pour pas qu'il soit dévoré. Parce qu'à l'époque, on mange le chien, on mange le chat.
Il y a un petit passage que j'ai pris, que je voulais lire sur ce qu'on mange à ce moment-là.
Oui, c'est très étonnant. Oui.
Alors attendez, je vais essayer de le retrouver.
Ben, on mange de tout, en fait. Certains Parisiens vont même jusqu'à arracher l'écorce des arbres, à la réduire en farine et à se nourrir de ça, d'écorce pilée. C'est un désarroi gastronomique total. Mais avant d'en être réduit à ça, ils mangent aussi toutes sortes de bestioles.
Les éléphants...
Oui.
Alors c'est le début du chapitre 12, page 89, intitulé Dans la tourmente. Le bol de bouillon était accompagné d'un miraculeux morceau de viande dont le serveur Lucien aurait eu bien du mal à déterminer la nature. Était-ce du chien ? Du rat. Même au goût, on ne pouvait pas savoir. À ce qu'on raconte, il paraît que les rupins se cuisinent du ragoût de trompe d'éléphant, les pauvres bestiaux qu'on a zigouillés au jardin des plantes. Que veux-tu ? Aujourd'hui, on ne sait plus ce qu'on a dans l'assiette. Nous mangeons de l'inconnu. C'est pas moi qui le dis, c'est notre grand Victor Hugo. Il y a même un hurluberlu qui a écrit au gouvernement pour proposer qu'on mette à l'ordre du jour la philanthropophagie. Ça veut dire manger de l'humain. Sur le principe, c'est difficile à avaler, mais tout bien réfléchi. Si on m'en proposait un morceau, je crois que je serais capable de bouffer du prussien, même cru.
Oui, c'était probablement ce que pensaient la plupart des gens dans le peuple de Paris. Hein. Ils étaient vraiment littéralement affamés.
C'est quoi cette histoire d'Hurluberlu qui a écrit au gouvernement ? Ça a existé,
c'est tout
ça ?
C'est vrai. Ouais. Oui, absolument, oui. Ça, c'est dans la documentation que j'ai trouvé ça. Le type proposait de manger. Il dit, il y a plein de gens qui meurent inutilement. Cette viande, on ne sait pas quoi en faire. On crève de faim. Pourquoi on les boufferait pas ? C'était mi-figue, mi-raisin. Je crois qu'il était quelque part un peu sérieux.
Voilà, et donc là, c'est Conrad, en fait, qui discute avec un aubergiste, parce qu'il est à la recherche du fameux Gustave Courbet. Ça va l'emmener à aller chez Félicien, qui, lui, est horticulteur, misanthrope. Hein.
Oui, misanthrope complet. Ouais. Le monde humain, l'humanité ne l'intéresse pas du tout. Le seul monde qui l'intéresse, ce sont les plantes. Alors là, il est très copain avec les plantes, les fleurs, les orchidées en particulier. Il a fait sa carrière avec ces fleurs-là, en les sélectionnant, les choisissant, etc. Et c'est un vrai personnage, il a vraiment existé. Je me suis inspiré d'une nouvelle parue dans le Moniteur Horticole de Paris, où il signalait la mort de ce monsieur qui avait voulu sauver ses plantes du froid et qui avait fini gelé avec elles dans ses serres glacées et bombardées.
Alors que là, elles vont pas être...
Elles vont pas pourrir comme ça,
puisqu'il va y avoir un accord avec la fameuse Alma d'Orchis. On écoute un peu de musique. La vie parisienne, évidemment.
Cette circonstance,
puisqu'on apprend que cette fameuse Alma d'Orchis a chanté. Chanteuse. Pas beaucoup, hein, mais elle a été chanteuse.
Le bonheur est là. Oui, voilà, voilà la vie parisienne de plaisir. À perte d'aller, oui, voilà.
On est en train de parler avec François-Henri Soulier de son dernier ouvrage, Que la fête s'achève. Et c'était ce qu'il y avait au top 50, ce qu'on vient d'entendre. Hein. La vie parisienne, c'était Offenbach. En fait, on s'aperçoit en lisant votre ouvrage, François-Henri Soulier, que tous les grands noms, que ce soit de la littérature, du spectacle, tout ça, ils étaient tous là à ce moment-là, de Gustave Courbet à Victor Hugo, en passant par...
Flaubert, tout le monde était là, les peintres aussi. D'ailleurs, le repas de réveillon que va donner la grande courtisane réunit un certain nombre de ces gens tout à fait extraordinaires, autant de l'art, de la littérature que de la politique. Il y a d'ailleurs quelques conflits intéressants, puisqu'ils ne sont pas des mêmes bords politiques, ils ne sont pas des mêmes croyances, ils ne sont pas des mêmes pôles, n'ont pas les mêmes pôles d'intérêt, et ils vont bien sûr, certains d'entre eux, se déchirer pendant le réveillon. Mais c'est un vrai portrait de ce qu'était Paris à cette époque-là. C'est tout à fait étonnant. Enfin, Flaubert, lui, était parti à Croisset, rejoindre sa mère en Normandie, ça n'a pas servi à grand-chose, mais puisque les Prussiens y sont arrivés aussi. Mais tous les autres étaient là, quoi. Il y avait une vie absolument bouillonnante. Mais c'est le paradoxe du Second Empire, c'est d'avoir favorisé une éclosion artistique absolument hors du commun, tout en condamnant des œuvres comme Les Fleurs du Mal de Baudelaire, tout en maniant une censure quand même assez féroce, mais... Cependant, de très grands artistes, et particulièrement peintres, poètes, musiciens et gens de théâtre, ont pu se développer et faire carrière à cette époque.
Donc, on est en 1870, le siège de Paris, le Louvre est vidé de ses, de ses œuvres.
Oui, on a peur des Allemands, enfin des Prussiens.
Et la Vénus de Milo est enterrée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on apprend aussi dans votre ouvrage?
Ils ont défait les toiles de leur cadre. Là, les toiles, c'était facile, on les roulait, on les expédiait en province. Mais des morceaux aussi monumentaux que la Vénus de Milo, c'est difficile à faire passer inaperçu. Donc ils ont décidé de l'enterrer à la préfecture de police, rue de Jérusalem, et dans les sous-sols. Donc ils ont enterré la Vénus, qui a été ressortie évidemment quelques mois plus tard, mais ça, c'était censé éviter la main basse sur les œuvres d'art, telles que les envahisseurs ont coutume de le faire.
Alors rappelez-nous l'intrigue, parce qu'il en faut une intrigue quand même, François-Henri Soulier.
Je ne suis pas certain qu'il y ait une intrigue. C'est comme dans la vie. Il y a des rencontres, il y a des carrefours, il y a des choses qui se passent qui n'auraient pas dû se passer en temps normal. La guerre est une espèce de focalisateur et de catalyseur de choses et d'événements. Et donc, il va y avoir, de très belles histoires d'amour, de très tragiques histoires d'amour. Et le fond de la question est dans un des dialogues où un des personnages demande à l'autre, mais... Est-ce que la beauté et l'art ne pourraient pas sauver le monde ? Et l'autre lui répond, mais qu'est-ce qui prouve que le monde ait envie d'être sauvé ?
Oui.
Ça, c'est le vrai sujet du livre.
Alors, il y a beaucoup de questionnements comme ça. Vous en profitez, mon cher François-Henri Soulier, pour justement glisser ça et là vos pensées.
Oui, quelques idées qui m'agitent.
Et vous les mettez dans la bouche. Alors là, je crois que c'est dans la bouche d'Alma d'Ortis, où en page 116, vous parlez de la Révolution. Vous lui faites parler de la Révolution.
C'est surtout son amie, la petite bouquetière, qui est bouquetière du Jockey Club. C'était un poste très envié parce que cette jeune femme avait accès à tous les puissants de la Terre. Le Jockey Club, c'est ce qui se faisait de plus chic. Et cette jeune fille a permis à Alma d'accéder à son statut de grande courtisane. Et elles discutent toutes les deux sur cette idée de la Révolution parce que c'est les prémices de la Commune. Dans quelques mois, la Commune de Paris va éclater et va donner lieu au bain de sang que l'on sait, à la tragédie sociale qui a eu lieu au mois de mai 71. Et là, nous n'en sommes qu'à l'évocation de la Révolution de 48, parce que ce 19e siècle a été particulièrement agité.
La Révolution, c'est ce qu'espèrent Louise Michel et ses amis les communards. Et que se passera-t-il ensuite ? Isabelle fait un petit geste fataliste accompagné d'un haussement d'épaule. Oh, ce sera comme toujours, les pauvres perdront. Ce ne sont jamais eux qui gagnent. On leur concédera tout au plus quelques jouets pour les distraire. La dernière fois, ils ont obtenu le droit de vote, dont ils ne savent que faire. L'abolition de l'esclavage, qui ne les concerne pas. Et aussi cette promesse merveilleuse appelée le droit du travail, qui a débouché sur un nouvel esclavage dont non pas celui des nègres, mais bien celui des pauvres, des ouvriers. Et je ne te parle pas des femmes qui, elles, n'ont droit à rien, comme toujours. Cette fois, peut-être, permettra-t-on aux miséreux d'exprimer leur opinion, à condition qu'ils s'expriment comme il faut. Et les gagnants, qui seront-ils ? Bah comme d'habitude, ma chérie, ce seront tes invités de ce soir, nos amis les banquiers, les marchands, les bourgeois, les princes, toute la clique rutilante de ces messieurs qui nous font vivre.
Et oui, c'est tragiquement réel. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est réel et très actuel. Oui, c'est l'intérêt aussi, vous savez, de se pencher sur l'histoire, c'est de voir ce que les périodes antérieures à la nôtre ont de commun avec nous. Et là, on assiste particulièrement à un déchirement politique qui est tout à fait semblable au nôtre. La droite est divisée en multiples factions, la gauche s'entretue, et personne n'est capable d'afficher un vrai programme, à la fois politique, social et économique. C'est exactement la situation dans laquelle nous sommes, avec des alliances absolument incongrues, c'est la carpe et le lapin, c'est tout ce qu'on voudra, mais rien de vraiment sérieux, rien de porteur, rien de politiquement, c'est-à-dire philosophiquement satisfaisant. Et c'est la foire d'empoigne pour qui fera fortune. C'est aussi c'est l'époque du baron Haussmann, avec des délits d'initiés sur les terrains de Paris, sur lesquels se sont bâties des fortunes.
Et oui, fortunes Paris, colossales. Paris se transforme à ce moment-là. Paris est déjà sous les bombardements,
mais il est en train
de se transformer.
Il est à peu près dans la configuration que nous connaissons aujourd'hui. Bon, certains travaux ont été interrompus par la guerre, évidemment. Ils reprendront après, la paix retrouvée. Mais c'est vraiment un changement de société.
Le jeune Conrad, on lui dit à un moment que Gustave Courbet est parti dans le marais. Alors il se pose des questions, il dit de quoi
le marais Poitouvin, le marais. Il n'a pas la moindre idée de ce que c'est que le quartier du marais. Évidemment, c'est ce qui va causer d'ailleurs sa perte et son errance dans les rues de Paris. Il ne sait pas où est le marais. Il est pourtant pas très loin. Il est rue Saint-André-des-Arts à Saint-Michel. Il avait qu'à traverser la Seine, mais il a raté le coche pour en prendre un autre.
Ça, c'est Conrad Félicien, on l'a dit, hein, c'est l'horticulteur misanthrope, qui est en train, lui, de préparer sa sortie,
voilà.
Tout simplement.
Il a décidé, maintenant qu'il sait qu'il va mettre ses plantes à l'abri, ses fleurs sont sauvées, il a plus de 80 ans, pour lui, la chose est jouée, ça n'intéresse pas de continuer davantage, il a les petits désagréments de ceux qui commencent à explorer les marécages de la vieillesse, et il décide que ça suffit comme ça. Voilà. Donc il va préparer ses funérailles, avec en tout cas son trépas, avec beaucoup de soin. Mais
voilà, c'est là qu'il va se faire la rencontre avec le fameux Conrad. Il y a quelques scènes qui sont, alors il y en a une qui est un peu longue, donc on va pas la lire là, mais on laissera les auditeurs découvrir, qui sont des vraies scènes d'action. Je pense à cette scène où Alma Dorkis est dans sa berline, elle roule sous la neige sur les pavés de Paris, on n'y voit pas grand chose, et puis elle voit regarder par la fenêtre et elle va vous croiser le regard de Conrad, et il va se passer que elle va vouloir qu'il monte dedans, mais c'est trop tard, et lui en même temps aurait bien voulu monter, mais c'est trop tard, etc. Et ça, c'est vraiment...
Elle veut ouvrir la portière, la poignée lui cède dans les mains, elle peut plus ouvrir la portière de sa berline, elle est coincée, puis les chevaux continuent leur chemin, bien sûr, personne ne se doute de ce qu'elle souhaiterait, et donc ce sont ces rendez-vous ratés que nous connaissons dans nos vies, tous, et qui parfois réussissent, autrement que ce que l'on croyait.
Et il y a ce passage-là, il y a un autre passage qui m'a beaucoup plu aussi, mais qui est dès le début, où ce fameux Conrad porte sur son dos
le corps de son ami. Ça commence comme ça.
Voilà.
Une scène terrible. Oui, parce que la guerre est quand même une des activités humaines incessantes, interminables depuis l'aube des temps. Je crois que nous assassinons les uns les autres avec beaucoup d'ardeur. Et je pense que l'homme est un chasseur et que sa proie préférée, c'est l'homme. Et la guerre lui donne l'occasion d'exprimer cette pulsion primitive, terrifiante, imbécile, mais incontournable. Nous en avons la preuve encore aujourd'hui.
Heureusement que de temps en temps on peut s'arrêter et prendre un bon bouquin, que la fête s'achève, de François-Henri Soulier chez Michel Lafon. En plus la couverture est très belle.
Merci beaucoup, c'est l'œuvre des gens de la maison Lafon qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Ils m'en ont proposé plusieurs et finalement nous nous sommes arrêtés sur celle-ci. En fait, c'est aussi l'idée de dire qu'une nouvelle fête s'invente, à nous d'inventer la nouvelle fête.
Voilà, et puis c'est un bouquin avec lequel on peut aller faire un petit week-end à Paris, comme ça on se balade dans les rues de Paris.
Parce que tout est vrai, et on retrouve plein de choses qui sont encore visibles aujourd'hui.
Le lancement officiel de Que la fête s'achève, ce sera le 12 mai prochain à 18h30 au Fort, à Montauban.
Avec une pléiade de copains comédiens et comédiennes très brillants et très enjoués qui feront, j'espère, pétiller les dialogues aussi bien que la musique d'Offenbach et le champagne de l'époque.
Que la fête s'achève. Merci d'être venu présenter ici cet ouvrage qui vient tout juste de paraître dans...
Il sort le 7.
Ah, mais il n'est pas encore sorti en plus.
Il va sortir le
7.
D'accord,
bah alors il est là, il arrive.
L'avant-première.
Merci beaucoup alors, de m'avoir permis de le lire. Et je vais vous donner de suite un stylo pour avoir une dédicace en direct live. Merci beaucoup François Rissoulier.
Merci Rémi, merci CFM.
Salut. Looking at my soul. Holding on the only things of God. There was nothing on my face, flooding through the ages, but everything's gone. Walking through the flame. Letting go for Voilà, June, Everything's Come June, en concert ce jeudi à 19h à Eurythmie à Montauban et en direct sur CFM Radio.
Vos podcasts et replays, podcasts et replays, cfmradio.fr.